Daphné Rousseau est reporter, journaliste auprès de l'agence France Presse. Les différents journaux français, que ce soit pour la presse écrite, la radio, la télévision, trouvent une grande partie de leurs sources auprès des agences de presse. L'avantage, c'est que l'information fournie par ces agences est directement utilisable. Elle a déjà été vérifiée, elle est neutre, elle est très factuelle. Daphné Rousseau travaille donc pour l'agence de presse française, l'AFP. Elle a été notamment correspondante à Jérusalem, à Berlin. Elle est partie en plein cœur de la guerre en Ukraine. Les 4e 6 du collège de Saint-François d'Assise l'ont rencontrée. Une interview à retrouver dès maintenant sur notre antenne.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Madame Daphné Rousseau de l'agence France Presse qui va répondre à nos questions.
Vous êtes déjà journaliste pour l'AFP, pouvez-vous nous présenter l'AFP ?
Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis effectivement journaliste à l'AFP, l'agence France Presse, qui est une des 3 agences de presse au monde. Une agence de presse, c'est un réseau de journalistes très très fourni. On est 1200 journalistes à l'AFP et on est présent partout dans le monde. Ça veut dire qu'on a des correspondants, des bureaux au fin fond de la Somalie, de la Corée du Nord. Avec 1200 journalistes, on arrive à donner une information que ne pourrait pas donner le Dauphiné libéré ou même le Monde qui a moins de journalistes et ne peut pas être présent partout quand il se passe quelque chose. Une agence de presse, c'est aussi la garantie d'une information qui est absolument vérifié et impartial. Ça veut dire que quand on est mis au milieu d'un conflit entre 2 pays, entre 2 tribus ou dans une élection présidentielle où il y a beaucoup de désinformation, on a des méthodes de travail qui font qu'on n'écrit rien tant qu'on n'est pas absolument sûr que ça s'est passé et que c'est vrai. Et le dernier critère qui fait qu'on est une agence de presse, c'est qu'on est rapide. Quand il se passe quelque chose, on a quelques minutes pour l'annoncer au reste du monde. Typiquement, s'il devait y avoir un volcan qui se réveille dans le massif central dans 10 minutes, on aurait à peu près entre la première alerte donnée par l'Institut de géologie et le moment où on envoie un flash à tous les autres médias qui ne sont pas basés en ce moment en Auvergne, il peut se passer maximum 5 minutes. Donc on est vraiment extrêmement rapide et réactif. Voilà pour l'agence France Presse qui a été créée en 1945, juste après la libération. Les nazis avaient occupé les bureaux d'une agence qui existait avant et s'en servaient pour faire de la propagande pro-Allemagne et pro-nazis, et des résistants sont venus les déloger et ont proclamé la France libre, y compris sur l'information. Et c'est comme ça qu'est née l'agence France Presse à la Libération.
Choisissez-vous vos reportages ou vous sont-ils imposés ?
Les deux, mon capitaine. Je peux proposer mes sujets de reportage. Donc j'ai toujours une liste dans mon téléphone portable qui s'appelle Idées Sujets. Et dedans, je mets toute la journée un peu des idées que j'ai à faire très rapidement cette semaine ou dans 2 mois, ou des trucs qui me font rêver, ou des pays où je voudrais aller faire des sujets, ou vraiment des petites choses que je pourrais faire dès demain. Et de temps en temps, ou en fonction de l'actualité, mes chefs aussi me disent « Daphné, aujourd'hui, on a besoin que tu ailles dans la manifestation parisienne, vérifier qu'il n'y a pas de violence contre les manifestants ou qu'il n'y a pas des manifestants qui s'en prennent aux policiers. Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire récemment ? De faire un sujet sur des arbres qui avaient un problème dans un parc à Paris. » J'ai la chance de pouvoir faire les deux.
Combien de journalistes êtes-vous à travailler à l'AFP Paris ?
À Paris, on est à peu près, je crois, je veux pas dire de bêtises, 200 ou 300. Alors, il y a les journalistes de tous les services, par exemple le mien, le reportage, police, justice, sport, économie, culture, environnement. Et on a des journalistes qui font du texte, comme moi, des journalistes qui font de la photo et des journalistes qui font de la vidéo. Et ensuite, pour qu'on puisse travailler aussi rapidement, aussi bien et avec une très grosse structure comme ça, on a plein de métiers qui ne sont pas liés au journalisme. On a des assistants, des comptables, des ressources humaines. Donc il y a aussi beaucoup de gens qu'on appelle administratifs qui travaillent chez nous à l'AFP, qui s'occupent des antennes qui nous permettent de diffuser, etc. etc.
En moyenne, combien de temps passez-vous sur une mission ?
Une mission en général à l'étranger chez nous, elle ne peut pas dépasser 1 mois. D'abord parce que c'est dur d'être loin de chez soi plus d'1 mois et puis de tout plaquer dans sa vie Souvent, c'est du jour au lendemain. Pour repartir dans un pays, plus d'un mois, c'est un petit peu difficile. Mais ça m'est déjà arrivé de faire jusqu'à 2 mois ou 2 mois et demi. Et j'ai aussi des missions qui sont beaucoup plus courtes, qui peuvent être juste de 24 heures ou de 48 heures. Récemment, il y a eu un attentat à Vienne et on m'a demandé d'aller à Vienne. Donc l'attentat a eu lieu à 23h. J'ai pris l'avion à 6h du matin et je suis restée moins de 24h parce que finalement le terroriste a été arrêté assez rapidement et l'histoire est un peu retombée. Il n'y avait pas besoin que je reste plus que ça. Mais ça m'est déjà arrivé aussi il y a un an. J'ai été envoyée au Proche-Orient parce qu'il y avait un début de conflit et je ne savais pas combien de temps je resterais, je suis restée 2 mois et demi. Donc ça, c'était très long. J'ai toujours un sac de mission chez moi. Il s'appelle le sac de mission, c'est un sac de sport dans lequel j'ai un passeport de rechange, des chargeurs, des habits pour tenir au moins 24 heures, des pastilles pour purifier l'eau, de quoi manger, des barres de céréales, des compotes, des carnets, de quoi recharger mon ordinateur même en solaire, une trousse de médicaments. Et ce sac-là, il est toujours dans mon armoire. Et s'il se passe vraiment quelque chose de terrible, comme, disons, l'explosion du volcan, je peux vite repasser chez moi et tout de suite prendre un train ou un avion sans me poser la question de qu'est-ce qu'il faut que j'emmène. Je sais que tout ce qu'il y a dans ce sac-là me servira en toutes circonstances, au moins pour 24 heures.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Bonne question. Je travaille en équipe puisque je travaille au quotidien dans un service qui est à peu près grand d'ailleurs comme cette salle de CDI et un peu disposé de la même manière, c'est un open space dans lequel on est une trentaine. On discute beaucoup des sujets. Après, moi, je préfère travailler seule, c'est-à-dire que mes reportages et mes sujets, j'aime les imaginer et mes enquêtes, surtout parce que je fais beaucoup d'enquêtes, j'aime les faire seule. J'aime pas trop travailler en binôme ou en équipe. Mais même si je suis seule, j'ai toujours avec moi, notamment dans les missions à l'étranger, dans les terrains de conflit, en guerre. Je suis jamais seule, d'abord pour des raisons de sécurité. On peut pas se balader tout seul sur une ligne de front. J'ai toujours avec moi un photographe, une personne qui fait de la vidéo, un fixeur et un traducteur. Par exemple, en Ukraine, je parle pas ni russe ni ukrainien. Donc, on embauche quelqu'un qui est du pays et qui m'aide à traduire. Et en Ukraine, on a une nouveauté qu'on n'avait pas eue sur aucun terrain de guerre. On a un officier de sécurité. C'est quelqu'un qui est en charge de notre sécurité physique. C'est un ancien militaire d'une unité spéciale française. Et il est avec nous dans la voiture toute la journée. C'est comme un bodyguard, sauf qu'il n'est pas armé, mais il prend plein de décisions pour nous. De, par exemple, cette route, je vois qu'au fond, il y a 4 chars russes qui sont dans telle position et c'est tel type de char. Ça veut dire qu'ils sont en train de manœuvrer dans notre direction. Donc ça veut dire que c'est trop dangereux, donc on va pas la prendre. C'est quelqu'un qui peut dire le bombardement qu'on vient d'entendre, c'est une roquette sortante ukrainienne. Donc c'est pas dangereux parce que si elle sort, c'est qu'elle va côté russe. Donc on peut rester dans le secteur. C'est aussi quelqu'un, si on se fait kidnapper ou si on est blessé, qui peut faire les premiers soins et qui sait réagir dans des situations très très graves. Et puis il s'occupe aussi de la logistique, de l'essence et de la nourriture, ce qui est plutôt agréable. Donc sur les terrains de conflit, on est toujours en équipe, on n'est jamais seul. Et à Paris et en France, j'ai plutôt tendance à chercher la solitude dans mon travail, mais il faut apprendre à faire les deux.
Avez-vous déjà été blessé ?
J'ai été blessé en Ukraine, au début de la guerre. On a décidé, au bout d'une semaine après le déclenchement de l'offensive, on a entendu parler d'un très grave bombardement dans une ville qui était à 4 heures de Kiev. Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Dans une zone où il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de manœuvres russes, où les Russes étaient en fait avaient déjà complètement envahi la zone, mais ce n'était pas encore très clair exactement où ils étaient. Mais on voyait que la route était encore praticable, on a décidé de la prendre. On a très mal agi, on ne s'est pas renseigné, on ne connaissait pas la ville et on n'avait pas pris de renseignements sur la situation dans la ville. C'est une ville où il y a une rivière et donc un pont pour mener à la ville. Et quand on est arrivé, on a compris très rapidement qu'on ne pourrait pas rester parce que la ville était pilonnée par des avions russes. Donc c'est des avions qui s'appellent les Soyouz, qui volent à très basse altitude et qui s'ouvrent, le ventre s'ouvre et il y a des bombes qui sont larguées. Et en fait, on en a vu beaucoup, beaucoup. Et on a eu beaucoup de bombardements juste sous nos yeux. Et comme on ne connaissait pas la ville, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on pouvait se réfugier. Donc on est resté très peu de temps. On a juste pu attester qu'il y avait eu 50 morts dans un bombardement la veille, ce qui était énorme à l'époque. Maintenant, il y en a eu beaucoup avec beaucoup de morts. Mais à l'époque, c'était le plus gros bombardement du début de la guerre. Et ensuite, on a pris la décision de quitter la ville au bout de 30 minutes parce que c'était trop dangereux. On s'est rendu sur le pont qu'on avait pris à l'aller. Et les avions russes ont décidé de bombarder le pont qu'on avait pris à l'aller au moment où on a voulu sortir, donc pour nous prendre au piège à l'intérieur de la ville. Et on a compris que si on restait à l'intérieur de la ville, on serait tué. Donc on a décidé de passer le pont sous les bombardements, donc en passant entre les gouttes des bombes. Et il y a une bombe qui est tombée trop près de la voiture et qui a fait ce qui s'appelle un blast. Donc on n'a pas été blessé vraiment, ni la voiture n'a pas eu de problème, mais le bruit de l'explosion a fait quelque chose au corps qui s'appelle un blast. Donc c'est-à-dire que les organes se soulèvent, qu'il y a une pression qui change à l'intérieur des organes. Et moi, j'ai eu un problème à l'oreille interne, donc j'ai perdu de l'audition à l'oreille droite. Et depuis, j'ai eu un acouphène, comme un petit sifflement que j'ai en permanence. Et a priori, je resterai toute ma vie avec, même s'il y a plein de techniques pour moins l'entendre. Et j'ai été considérée comme accident du travail. Mais donc je vais très bien, c'est pas la plus grosse blessure qu'on puisse imaginer, mais on a eu très très peur ce jour-là, dans ce bombardement. At the starting of the week, at summit talks you'll hear them speak, it's only Monday. Negotiations breaking down, see those leaders start to frown, it's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. You never thought we'd go to war. After all the things we saw, it's April Fool's Day. Tomorrow never comes until it's too late. We'll all go running underground, and we'll be listening for the sound. It's only Wednesday. In your shelter dimly lit, take some wool and learn to knit, 'cause it's a long day. Tomorrow never comes until it's too late. You'll hear a whistling overhead. Are you alive or are you dead? It's only Thursday. You feel the shaking of the ground. A million candles burn around. Is it your birthday? Tomorrow never comes until it's too late. Though that shelter is your home, the living space you have outgrown, it's only Friday. As you come out to the light, can your eyes behold the sight? It must be doomsday. Tomorrow never comes until it's too late. Ain't it funny how men think they made the bomb, they are extinct, it's only Saturday. I think tomorrow's come, I think it's too late. Think tomorrow's come, I think it's too late. Think tomorrow's come, I think it's too late.
Qu'est-ce qui vous a marqué émotionnellement au cours de vos missions ?
Ce qui me marque le plus dans mes missions, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'aller dans un endroit où il se passe autant de choses et autant de choses terribles et d'en partir. En fait, on me dit toujours, est-ce que tu es soulagée de quitter l'Afghanistan, quitter l'Ukraine ? Moi, je ne suis jamais soulagée parce que je sais que les gens y restent. Les gens que j'ai rencontrés là-bas et qui vont rester, bah, déjà, je me pose toujours la question de est-ce qu'ils vont rester en vie. Et ça, c'est quelque chose qui me marque énormément. Et pour plein de raisons, quand c'est en plus lié à des enfants, je trouve que c'est particulièrement difficile de laisser des enfants dans ces situations. Très récemment, toujours en Ukraine, dans cette zone de conflit, on avait un vieux monsieur qui s'appelle Nicolas, qui avait une petite maison, pas petite d'ailleurs, une assez jolie maison dans la campagne. Et puis il avait fait un petit promontoire, une petite terrasse sur sa maison où il observait toute l'invasion russe qui arrivait vraiment comme ici, quoi. C'est comme si elles étaient au bout de la chaîne des montagnes. Il voyait vraiment les tanks arriver de jour en jour. Et il avait des jumelles et tous les jours, il regardait les Russes se rapprocher. Et nous, on a utilisé sa terrasse pour faire beaucoup d'images. Donc on y allait tous les jours. Il nous recevait vraiment très, très bien. Il y avait déjà plus d'électricité, plus d'eau. Il faisait moins 5 degrés. Il nous faisait du thé. Il nous donnait tout ce qu'il avait à manger. Et en fait, il nous a dit très clairement qu'il avait l'intention de pas quitter sa maison et de mourir s'il le fallait. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que tous les jours, on y retournait. Tous les jours, il nous disait qu'il préférait mourir dans sa maison que de partir. Et puis, moi, j'ai dû quitter la zone. Il y a une autre équipe qui est arrivée. Et je leur avais vraiment dit, essayez quand même de continuer à le convaincre de partir. Et le jour où les Russes sont entrés dans son village, il a accepté de monter dans la voiture de l'AFP. On a pu l'évacuer. Aujourd'hui, il vit en Allemagne avec sa fille et il est en vie. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous voyez que c'est aussi une expérience qui n'est pas journalistique. C'est une expérience juste humaine. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que oui, il y a des reportages qui m'ont marqué. J'ai sorti des informations très importantes, des exclusivités. J'ai fait des reportages qui ont compté dans l'information et j'espère un jour pour l'histoire. Mais moi, c'est toujours un peu la petite histoire des gens qui me marquent. Et si la nuit, j'y repense, comme c'est ta question, à quoi je pense la nuit quand je vais dormir, c'est plutôt ça qui me marque que le reste.
Est-ce que votre travail impacte votre entourage ?
Oui. D'abord, je travaille beaucoup, un petit peu moins en ce moment, mais j'ai des périodes de ma vie où je travaillais entre 50, 60, 70 heures par semaine, le week-end, où je ne prenais pas beaucoup de vacances. Ça, c'était plutôt dans ma vingtaine. Ensuite, j'ai pu avoir un peu plus de confort matériel, donc gagner plus d'argent et avoir besoin de moins travailler. Mais comme vous comprenez, je fais des choses assez inhabituelles ou assez dangereuses. Donc oui, mes proches vivent pas très bien mon mode de vie et mes choix professionnels. Ça fait beaucoup de sujets de disputes. Et j'essaye de trouver des solutions pour trouver un équilibre entre faire ce métier qui compte plus que tout pour moi et qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir faire. Et j'ai la chance et j'ai été formée pour le faire et avoir une vie normale à peu près, une vie personnelle à peu près normale, mais c'est pas toujours possible. Concrètement, quand je suis en mission, d'abord, moi, je dis toujours à mes proches que je pars en mission parce que j'ai des collègues qui ne disent même pas à leur femme ou à leur mari ou à leurs parents où est-ce qu'ils partent. Donc moi, je dis toujours où je vais, je ne mens jamais. Et j'ouvre un groupe WhatsApp avec mes proches, mes amis proches, ma famille, et dans lequel je fais un petit carnet de bord tous les jours. Et je mets tout dedans, je ne filtre rien, je ne cache rien et je ne mens sur rien, y compris quand c'est très inquiétant, parce que je pars du principe que quand je rentrerai en France, tout ce que j'ai vécu va les impacter aussi, parce que ça va impacter ma peur, mon rapport à la mort, ça peut laisser des séquelles sur moi, et que je préfère qu'ils comprennent ce que j'ai vécu pour qu'on puisse en discuter, plutôt que d'avoir ce tabou et de ne pas pouvoir m'ouvrir aux autres. Donc moi, j'échange sur tout, j'envoie des photos de tout, je dis que j'ai failli mourir aujourd'hui, je dis que j'ai peur, je dis que j'ai pas dormi, je dis que j'ai pleuré, et je suis très transparente avec ça. Et jusqu'au retour de mission, où je dis tout à mes chefs aussi, tout ce qui s'est passé, je fais pas du tout l'héroïne en disant « oui, ça va, c'était bien, ça s'est bien passé ». J'ai pas eu peur, je suis très très honnête avec mes émotions et les risques qu'on a pris.
Avez-vous rencontré des personnes importantes ou célèbres ?
Oui, beaucoup. Ça fait vraiment partie de mon métier. Le plus important et célèbre, c'était Barack Obama. J'ai été correspondante à l'étranger pendant plusieurs années et dans une de mes attributions, dans un de mes postes, je faisais beaucoup de voyages diplomatiques et donc je me rendais souvent à Washington. Et à Washington, on n'est pas toujours à la Maison-Blanche, mais cette fois-ci, j'ai eu une accréditation, donc une autorisation d'aller à la Maison-Blanche. Il faut une petite enquête de l'ambassade américaine qui vérifie qu'on n'est pas un terroriste ou qu'on n'a pas des velléités de tuer le président. Ensuite, on a une accréditation qui permet de rentrer à la Maison-Blanche. Donc, je l'ai eu une fois. et j'ai pu suivre des négociations entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Barack Obama. C'était sur le sujet de l'Iran, c'était un très très gros sujet à l'époque, le nucléaire iranien. Et donc voilà, très concrètement, j'étais dans le bureau ovale et j'étais au premier rang et je devais enregistrer, comme là on est en train de faire, les déclarations des deux. Je l'enregistrais sur mon téléphone portable et pour pas déranger, je m'étais mise à genoux et je tendais le téléphone portable en face de moi et Barack Obama a vu que je n'étais pas très confortablement installée et donc a pris mon téléphone et l'a posé sur la table pour que je puisse tranquillement enregistrer sans rester à genoux et donc voilà, c'était un moment un peu étrange où j'ai une interaction personnelle avec Barack Obama et après quand la déclaration s'est finie, j'avais peur d'aller chercher mon téléphone portable devant la table à café, donc je l'ai laissé tourner pendant 10 minutes en me disant qu'il y aurait peut-être un policier ou quelqu'un qui viendrait me le restituer à un moment. Donc oui, on rencontre beaucoup de personnalités, notamment politiques. Mes collègues qui font du sport passent leur vie avec l'équipe de France, le PSG, les joueurs de tous les clubs. Ceux qui s'occupent de la culture interviewent des stars du cinéma. Moi, j'ai plutôt rencontré effectivement des chefs d'État et des personnalités politiques.
Est-ce que votre salaire est fixe ou dépend-il de vos reportages ?
Mon salaire est fixe. Il est fixé selon une grille de salaire, donc c'est même pas moi qui l'ai décidé. C'est une grille de salaire qui prend en compte l'ancienneté, le niveau d'études. J'ai une toute petite prime de risque qui s'appelle d'excellence pour les reportages que j'ai faits en Ukraine.
Où peut-on lire vos articles ou voir vos reportages ?
Donc les articles qu'on fait pour l'agence France Presse sont diffusés et repris par tous les autres médias en France et dans le monde. Mais moi, je ne signe pas mes papiers, ou très rarement. Donc en fait, pour voir mes papiers, il faut taper le titre. Par exemple, « Explosion surprise du volcan d'Auvergne », il faut le taper dans Google. Et en général, tu pourras le voir repris, ce qu'on appelle repris sur le site, je sais pas, de l'Express, de Libération, ou de CNN, si ça a été traduit en anglais, parce qu'on écrit aussi dans les deux langues.
Êtes-vous polyglotte ?
Je parle français, qui est ma langue maternelle. Je parle anglais, qui est la première langue que j'ai appris en LV1. Je parle allemand, qui était ma LV2. Ensuite, au lycée, j'ai fait une LV3 espagnole. Et ensuite, j'ai appris l'hébreu et l'arabe pour travailler à Jérusalem. Et récemment, j'ai commencé à apprendre le russe. Donc, je peux parler et travailler dans 5 langues.
Quel est le plus beau pays dans lequel vous avez travaillé ?
J'adore cette question. Le plus beau pays dans lequel j'ai travaillé, étonnamment, c'est l'Afghanistan, qui est un pays dans lequel on ne peut pas du tout aller passer des vacances, pas du tout faire du tourisme. C'est un pays qui est très, 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 très dangereux, qui est inaccessible. Il n'y a pas de visa pour aller en tourisme. Donc, j'aurais jamais pu le voir si je n'avais pas été travailler là-bas. C'est le pays le plus pauvre au monde. Je crois le troisième plus pauvre au monde. Et c'est le pays que j'ai trouvé le plus beau en termes de paysage. D'abord, comme c'est un pays qui n'est pas du tout très construit ou qui n'a pas de tourisme, tout est préservé. C'est beaucoup de désert, c'est des montagnes, c'est très sauvage. Ça va de la neige, presque comme des montagnes de stations de ski, à des déserts où il fait 50 degrés. Il y a tous les climats et il y a des forêts. C'est vraiment une nature incroyable. Et je me suis vraiment dit que même si c'était un pays un peu martyr où il se passe des choses vraiment horribles, j'avais beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir circuler dedans, notamment parce que quand j'y suis allée, la situation sécuritaire permettait de circuler en Afghanistan, parce que juste avant, on pouvait circuler que dans des voitures blindées de l'armée américaine. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des voitures à peu près normalement et de traverser le pays dans tous les sens. Et c'est un pays qui m'a beaucoup marqué pour sa beauté.
جان مادر حالی که تو می Quels sont vos projets ?
Je fais une enquête sur les influenceurs, notamment ceux qui sont basés à Dubaï, et sur les pratiques illégales qu'ils ont, soit de la fraude, soit même de la criminalité. Donc j'interviewe toute une série de personnes qui sont liées à ce milieu-là. Ça va de Booba à Magali Berda, à des joueurs de foot. Et j'essaye de comprendre comment fonctionnent les réseaux liés autour de ces pratiques de fraude des influenceurs. J'ai un projet qui n'a rien à voir. Ma famille a une petite maison à côté d'ici dans laquelle je viens souvent. Et j'aimerais bien faire un sujet dans la région. J'aimerais faire un sujet sur les pratiques liées autour des nouvelles médecines et certaines pratiques frauduleuses autour de certains métiers et de certaines pratiques comme les magnétiseurs ou les pierres ou sur des histoires qui ont pu se passer dans la région. J'aimerais beaucoup repartir en reportage à l'étranger, mais maintenant je ne veux plus faire de terrain de conflit pour les années qui arrivent. Je ne veux plus me mettre dans cette situation de vie et de mort, en tout cas dans les mois qui arrivent, et on verra plus tard. Voilà pour les projets. Et mon prochain poste, puisque chez nous à l'AFP, on change de poste tous les 5 ans. Donc ça veut dire qu'on reste à l'AFP, mais on est obligé de changer soit de pays, soit de thème. Donc moi, mon poste, il s'arrêtera en juin 2024. Je dois à peu près déjà dire ce que je voudrais faire. Et ben, j'ai pas de réponse. Je pense que je voudrais repartir à l'étranger. Je sais pas encore dans quel pays. Plutôt un pays tranquille. Je pensais peut-être à Bruxelles ou à Washington ou à Londres, mais c'est pas que moi qui décide. Il faudra voir ce que je peux faire aussi ou pas. Et je pourrais rester à Paris. J'aimerais bien, si je reste à Paris, faire du journalisme culturel. Peut-être la rubrique cinéma ou musique de l'AFP.
Quelle formation doit-on faire pour être journaliste ?
Pour être journaliste aujourd'hui, à 98%, il faut avoir fait une école de journalisme. L'école de journalisme, il y en a 12 en France, dans plein d'îles de France, Tours, Marseille, Lille, Rennes, Strasbourg, beaucoup à Paris aussi. L'école de journalisme, ça peut être soit Bac plus 2, donc il faut faire quelque chose pendant 2 ans, soit à Bac plus 3, et ça dure soit 2 ans, soit 3 ans. Et là, on reçoit la formation technique, théorique. On fait beaucoup de stages. La formation de journaliste, c'est, je dirais, 20% de théorie. Et 80%, on est dans des rédactions, on est dans des journaux tout le temps. Moi, j'ai passé toutes mes études à travailler, en fait, d'ailleurs gratuitement, parce que les stages ne sont pas payés. Alors ça, c'est pour la réponse officielle. Pour la réponse non officielle, moi, je vois de plus en plus de journalistes qui n'ont pas fait de formation spéciale, ou qui n'ont même pas fait d'études et qui ont appris, comme on dit, sur le tard, ou qui ont appris dans la rue. Il y a un collégien que je suis beaucoup en manifestation. Il est en quatrième, d'ailleurs, comme vous. Et il adore la photographie de presse. Et en fait, dès qu'il y a une manifestation, il va dans la manifestation avec son appareil photo, il fait des photos et des vidéos, et il alimente son compte Instagram et Snapchat. Mais il fait vraiment du reportage d'actualité. C'est pas du tout... Et il est très pro. Il a 14 ans. Ses parents l'attendent en général au café du coin, et il fait tout ce contenu-là, et lui, il veut être journaliste, et il n'aura pas besoin de faire une école de journalisme. Je pense qu'à 18 ans, il sera très clairement embauché par un journal ou une chaîne de télé. Il aura déjà été formé, et il est très bon, déjà en tant qu'apprenti autodidacte. Autodidacte, c'est celui qui apprend tout seul sur le terrain. Donc ça, c'est tout à fait possible. J'ai aussi un collègue qui est très, très grand reporter au Figaro, qui est même chef de service, qui est quelqu'un de très connu, qui n'a pas eu le bac, qui a commencé dans un petit journal local et qui a monté les échelles. Aujourd'hui, il a 40 ans et il a une carrière vraiment très impressionnante. Donc, tout est possible.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Ma passion, c'est d'écrire. Donc, j'ai besoin tous les jours de m'exprimer, de mettre des mots les uns à côté des autres. J'adore ça. Si je ne peux pas faire ça, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Et mon métier, il me paye pour le faire. Hein, donc, sur des sujets que je ne choisis pas toujours. Mais en tout cas, j'écris des articles tous les jours. Donc, c'est ce que j'aime le plus, c'est écrire. Ensuite, ce que j'aime dans mon métier, c'est de vivre tellement d'aventures, rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Donc là, on parle de célébrités, mais j'ai aussi effectivement rencontré des métiers que je connaissais pas du tout, étaient dans des lieux incroyables. Donc ça, c'est l'énorme chance, c'est toutes ces aventures. Comme je suis quelqu'un d'assez curieux, c'est très, très, très satisfaisant. Et troisièmement, je déteste la routine. Donc j'ai eu la chance, en plus avec l'agence, comme on change de métier, je vous ai dit, de poste tous les 5 ans, d'être sûr de pouvoir me renouveler à l'intérieur de ça, tout en ayant la sécurité de savoir que j'aime mon métier. Donc là, c'est vraiment presque la situation idéale professionnelle pour moi d'avoir tout le temps ce renouveau et quand même le filet de sécurité, de ne pas avoir à chercher du travail et d'être payé tous les mois. Donc j'ai beaucoup de chance. Ma vie personnelle est parfois un peu compliquée, mais ma vie professionnelle est quelque chose dont je suis assez contente.
Êtes-vous invité par des médias pour des émissions télé ou radio ?
De plus en plus. Comme j'ai été exposée à des très grosses informations, notamment sur l'Ukraine, Oui, j'ai eu beaucoup de demandes de chaînes de télé et de radio qui me demandent de témoigner comme ce que je suis en train de faire avec vous, mais pour une matinale d'une radio ou pour une émission de télé, je dis non 90% du temps. Je le fais que quand je suis vraiment disponible, que j'ai quelque chose d'intéressant à dire et que j'aime l'émission dans laquelle je vais. Je préfère faire ce que je suis en train de faire, de l'éducation aux médias, que d'aller sur un plateau télé.
Vous servez-vous des réseaux sociaux dans le cadre de votre travail ?
Tout le temps. J'ai un compte Twitter. À l'intérieur de ce compte Twitter, j'ai des listes. Donc, j'utilise ce que j'appelle des listes que je crée par thème. Donc, France, étranger, Ukraine, etc. Et je passe ma vie, comme vous passez votre vie à scroller sur TikTok et Snapchat, moi, je passe ma vie à scroller sur ces listes Twitter. Je suis complètement accro à ça. Et je regarde tous les derniers tweets qui sont sur les sujets qui m'intéressent. Donc, ça, c'est mon environnement un peu comme vous dans lequel je baigne. Ensuite, je m'en sers comme une source donc pour savoir ce qui se passe, d'où vient l'information. Donc, ça, tout le temps. D'ailleurs, il y a plein de soucis autour d'être sûr que la source est bonne si elle est sur les réseaux sociaux. Mais oui, il y a plein d'annonces qui sont faites d'abord sur Twitter ou d'abord sur Instagram ou un peu moins sur TikTok, mais ça va commencer. Et donc oui, on s'en sert tout le temps pour avoir des informations et les avoir en premier. Et par exemple, quand je suis en manifestation, en reportage, j'ai toujours aussi Twitter d'allumé et je regarde ce que fait le collègue qui est 50 mètres plus loin. Parce qu'il, s'il est en live ou même s'il est en live sur Facebook ou sur TikTok, ça me permet de voir ce qu'il est en train de faire. Et moi, je ne vois pas forcément, je ne suis pas au même endroit de la manifestation. Donc oui, c'est une manière d'avoir des yeux partout et d'avoir accès à plein d'informations. Je m'en sers, mais avec parcimonie. Et je fais vraiment attention au compte que je suis et tout ce qui me paraît un peu louche, je ne peux pas l'utiliser dans mon métier parce que imaginez si je reprends une information qui n'est pas bonne. Vous comprenez que l'AFP, c'est ceux qui donnent l'information au reste du monde. Donc si je commence à raconter n'importe quoi, je vais rapidement perdre mon boulot.
Avez-vous déjà fait des films documentaires ?
Non, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Le documentaire dans notre métier, c'est un peu... C'est un peu le rêve, c'est un peu ce que tout le monde voudrait faire. Parce que pourquoi c'est le rêve ? Parce que ça nous permet d'aller loin, de prendre le temps, d'avoir 50 minutes pour expliquer plutôt qu'une minute 10 dans le JT. Ou moi, mes papiers, ils font 600 mots, c'est rien, c'est très très peu. Donc oui, j'aimerais beaucoup faire du documentaire et j'espère qu'un jour, je pourrai le faire en plus ou à côté de mon travail. Et notamment en Ukraine, il y a plein de sujets que j'ai fait rapidement, vite, parce qu'on était dans le feu de l'action. Et par exemple, je vous parlais de Nicolas, le petit vieux, vous vous souvenez, qui était dans sa maison et qui voulait évacuer. Bah, typiquement, lui, j'aurais vraiment adoré avoir une équipe, un caméraman avec moi, et qu'on puisse, à travers lui, raconter cette guerre. Alors, je l'ai fait en texte, hein, j'ai fait un portrait de cet homme et je suis très contente du papier. Mais j'aurais voulu qu'on reste avec lui, qu'on dorme dans la maison quand il y a les bombardements, qu'il nous explique, enroulé dans son drapeau, pourquoi il ne veut pas partir. Et puis qu'au moment où il craque et il ferme la maison, qu'il a mis 60 ans à se payer, qu'il ne reverra jamais de sa vie parce que ça va être notamment envahi par un pays ennemi, donc il ne pourra même pas retourner dans son village jamais, et que probablement en fait, elle sera détruite dans un bombardement. J'aurais voulu vraiment qu'on soit là dans tous ces moments-là, qu'on aille en Allemagne avec lui, qu'on voit sa nouvelle vie, qu'on lui parle de l'Ukraine. Enfin voilà, vous visualisez avec moi, ça aurait fait un bon documentaire, et je ne l'ai pas fait, c'est peut-être un regret, donc oui.
Sommes-nous obligés de parler plusieurs langues pour faire des reportages ?
Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Tu peux travailler en France, dans ta région, dans ta ville, dans ta langue. C'est pas du tout obligatoire. Il faut bien parler une langue, de préférence celle du pays dans lequel t'es. Donc si t'es en France, plutôt bien savoir manier le français. Même pour la vidéo, c'est important. De bien poser des questions, de bien pouvoir écrire, pas faire de faute d'orthographe. Mais une langue, ça suffit. Après, si tu veux travailler en dehors de la France, il faut au moins parler... l'anglais, qui est en général la langue qui sert le plus à l'international. Plus tu parles de langue, plus tu pourras aller dans des endroits, plus tu pourras faire des meilleurs sujets. Mais tu peux absolument être reporter et ne parler que le français. Il n'y a aucun problème.
Et ben voilà, c'était la classe de 4e 6 du collège de Saint-François d'Assise. Merci d'avoir écouté cette interview avec Madame Daphné Rousseau.
Merci à vous. We'll be right back.
C'était Daphné Rousseau, journaliste reporter à l'agence France Presse. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un projet soutenu par le département de l'Ardèche. Vous pouvez la retrouver en ligne sur notre site internet ou sur le site du CDI du Collège Saint-François d'Assise.